Et qui ne doivent pas faire comme ont fait leurs parents, c'est-à-dire manquer de foi, avoir peur du changement et tourner en rond dans le désert. Verset 1 de Deutéronome 12. Si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à en prendre une ou à vous en faire donner une, et qu'à lever la main. Très bien, je vous encourage à toujours amener votre Bible, même du papier et un crayon, pour prendre des notes. Pas nécessairement pour les grandes choses que j'ai à vous dire, mais pour ce que le Seigneur peut vous dire au cours du sermon. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je vous dis, mais ce que le Seigneur vous dit par sa parole. Et le souci, c'est presque un leitmotiv, une répétition, un slogan. C'est que toutes les commandes, les prescriptions que Moïse donne au peuple, c'est pour qu'il les mette en pratique. Nous de même, ce n'est pas le tout d'entendre la parole de Dieu. Il nous faut la mettre en pratique. Comme je le disais mercredi, si vous venez régulièrement à des réunions, à des cultes de chrétiens depuis des années, et si votre vie n'a pas changé, alors il y a un problème. Si vous n'êtes pas plus engagé pour le Seigneur qu'il y a 5 ans, si vous ne témoignez pas davantage de son amour autour de vous, si votre caractère n'est pas devenu un peu plus comme le caractère de Christ, c'est-à-dire complètement comme le caractère de Christ. Et si vous ne voyez pas des progrès vers Christ, alors je suggère que c'est parce que vous n'essayez pas de mettre en pratique ce que vous entendez. Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Chapitre 1 du verset 13, c'est le leitmotiv. Le verset 12 dit « Voici les prescriptions et ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. Mettez en pratique mes commandements, dit Moïse, les commandements de Dieu. » Et dans les versets qui suivent, Moïse leur dit de détruire complètement les traces des anciennes religions païennes. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu, sur des hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez au feu leurs poteaux d'Achéra, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Destruction totale de ces signes de religion païenne. Nous avons souvent dit que ces religions païennes étaient souvent l'occasion de licences sexuelles, d'immoralité sexuelle. Il Parce qu'il est vrai que la capacité de donner la vie, de transmettre la vie, la sexualité humaine a toujours exercé une fascination chez l'homme, chez la femme. Ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et plutôt que de chercher à connaître le vrai Dieu, dès le début des temps, les hommes ont célébré la procréation sexuelle avec des représentations d'organes sexuels, de statues. On pense que les poteaux d'Achéra dont il est question verset 2-3 sont comme des symboles phalliques. Et quelque part, on pourrait dire que notre société moderne païenne embrasse cette même religion du sexe. On peut faire n'importe quel genre de publicité tendancieuse, ouvertement immorale. Sur tous les abribus, on peut voir des femmes à moitié nues ou nues. Mais imaginez d'avoir des versets bibliques sur les abribus. Là aussi, je vous invite à réagir de la façon possible. Pas pour être des mères et des pères la pudeur, mais pour dire que ça ne plaît pas à tout le monde. Il fallait donc détruire toutes ces choses pour éviter sans doute de susciter la curiosité des Israélites. Pour ne pas donner accès au diable. Paul nous le commande dans Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Pas de compromis avec le péché dans nos vies. Il faut être énergique, radical. Radical, ça vient du mot, ça veut dire couper la racine. Jésus disait que le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent, qui le prennent. Je ne crois pas que c'est avec la mitraillette qu'on va faire progresser la foi chrétienne. La violence dont il est question, je crois, c'est la violence vis-à-vis de notre péché nous-mêmes. Si nous avons des livres, des CD, des vidéos que nous savons non recommandables, mettons-les à la poubelle. Si l'accès à l'Internet, la télé sont un problème pour moi, j'arrête mon abonnement. Si j'ai du mal à me lever le matin à 7h pour prier, alors agir violemment, c'est mettre le réveil à 5h. Le lendemain, je me lèverai peut-être plus facilement à 7h parce que je me serai couché le soir à 9h complètement crevé. Pas de compromis. Versets 5 et 7. Moïse continue en leur disant qu'ils devront exercer le culte en un seul lieu. Vous vous souvenez que dans Jean 4, versets 21 à 24, Jésus avait dit à la femme qui lui demandait où est-ce qu'il fallait adorer, Jésus avait dit, l'heure viendra où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, nous ne nous réunissons plus autour d'un lieu. Nous nous réunissons autour d'une personne. Ce lieu dont il est question, il a changé dans l'histoire d'Israël. Ça a d'abord été Silo, puis Gilgal, puis Jérusalem. Il donnait aussi, verset 8, vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ça, c'est caractéristique des gens qui vivent sans Dieu, de faire ce qui leur semble bon, ce que bon leur semble. Et quand on y réfléchit bien, c'est quand même à Dieu de nous dire comment il veut être adoré. Dieu nous dit de nous réunir pour le célébrer. Dieu nous dit de nous réunir pour prier, pour chanter. Et beaucoup de nous aujourd'hui disent « Oh, moi je lis ma Bible tout seul. » Non, il y a certains commandements que Dieu ne donne pas pour nous ennuyer, mais pour nous protéger, pour notre bonheur. Donc versets 10 à 12, il leur dit de présenter leurs offrandes, leurs cultes, leurs sacrifices en un lieu précis. Et la raison, c'est pour se réjouir. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui résidera, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Une caractéristique de la vraie religion, de la vraie foi en Dieu, c'est de comprendre que Dieu vous aime, que Dieu veut votre bonheur. Plusieurs fois, dans le passage versets 25 et 28, on dira « afin que vous soyez heureux ». Mercredi, on disait qu'en fait, le but de Dieu dans nos vies, c'est pas le bonheur. C'est la sainteté. Mais c'est parce que mes paroles ont peut-être été infidèles à la vraie nature de Dieu. Il veut notre bonheur. Mais ce bonheur, il ne passe que par la sainteté. Le boulot du diable, c'est de vous faire croire que le bonheur est en dehors de la sainteté. Don't worry, be happy. Ne faites pas de soucis, soyez heureux. C'était le titre d'une chanson il y a 15-20 ans. Nous, on devrait chanter Don't worry, be holy. Ne vous faites pas de soucis, au lieu de chanter Ne vous faites pas de soucis, soyez heureux, on devrait chanter Ne vous faites pas de soucis, soyez saints. Garde-toi d'offrir les holocaustes dans tous les lieux que tu verras, verset 13, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. À l'époque, Dieu voulait que l'adoration se fasse en un seul lieu. Peut-être pour unifier le peuple d'Israël. Et surtout pour que chacun ne fasse pas son truc de son côté. Les versets suivants, ils rappellent les commandements qui consistent à manger certains animaux seulement, offrir certains animaux. En les mettant en garde de ne pas consommer le sang. Seulement, vous ne consommerez pas le sang, verset 16, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle la viande cachère. Les boucheries cachères sont des boucheries qui servent de la viande où le sang a été sacrifié, a été évacué. Pourquoi ? Parce que la vie est dans le sang. Les témoins de Jéhovah utilisent ces commandements pour ne pas donner leur sang. Mais là, il est dit de consommer le sang, c'est-à-dire l'avaler. Nous savons que Jésus a aboli ces lois alimentaires. Nous avons vu la semaine dernière que ce qui compte, ce n'est pas le rituel, c'est le spirituel. C'est la réalité de notre foi en Dieu. Tu ne pourras manger, verset 17, là où tu résides, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes faites en raison d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Là, Moïse leur dit que la dîme, ce n'est pas à eux pour en faire ce que bon leur semble. La dîme, elle appartient à Dieu. Là aussi, le Nouveau Testament reprend la même idée avec l'offrande, la dîme. Mais encore une fois, on est censé donner avec hilarité, joyeusement, librement, comme on le décide dans son cœur. Mais la dîme, ça reste une partie de notre adoration de Dieu. Il parle du Lévite qui résidait avec eux. Le Lévite, c'était l'homme qui se tenait devant Dieu pour eux. C'était un peu le ministre du culte. Nous savons aujourd'hui que nous sommes tous des ministres du culte. Amen. Et que nous avons tous un ministère à exercer auprès de notre famille, de nos voisins, de nos collègues, au sein de l'Église. Mais là, c'était pour rappeler que cette tribu de Lévi, qui était consacrée au service de Dieu, n'avait pas de terrain à labourer, de culture. Et donc, c'était leur responsabilité de prendre soin d'eux. Et là aussi, il y a un parallèle dans le Nouveau Testament où le travailleur est digne de son salaire. Verset 20 et suivant, l'Éternel dit qu'ils peuvent, consommer de la viande dans d'autres endroits. Mais toujours avec verset 23, cette prescription d'éviter de ne pas consommer le sang. Car la vie de toute chair, c'est dans son sang. Donc, encore une fois, Deutéronome, ça veut dire répétition de la loi. Nous n'étudions pas en détail toutes ces prescriptions que nous avons vues déjà dans le Lévitique, dans les Nombres. L'idée à retenir, c'est que nous, aujourd'hui, nous devons nous réunir autour d'une personne. S'il y a des idoles, des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie, elles doivent être détruites, pas à moitié, mais complètement. Il y a un auteur américain qui dit qu'il y a des gens qui se prosternent 7 fois par semaine devant une idole. C'est le travail. Ceux qui sont uniquement motivés par l'avancement, la promotion, l'argent. Ça peut être la télévision. Ça peut être toute poursuite qui ne met pas Dieu en premier. Un pasteur peut avoir une idole de construire une église. Si sa première motivation, c'est pas de le faire pour le Seigneur, mais pour le faire pour sa gloire. Les versets suivants nous disent comment réprimer l'idolâtrie. Verset 29 nous dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé devant toi les nations que tu vas déposséder, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. » Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations rendaient-elles un culte à leur Dieu ? Moi aussi, je veux faire de même. » Donc il y a un piège pour les Israélites, il y a un piège pour nous vivant au XXIe siècle. Le piège d'une curiosité malsaine. De voir comment les sectes adorent leur Dieu, par exemple. Se mettre à étudier en détail la doctrine des témoins de Jéhovah. La Bible nous dit qu'on ne doit même pas les laisser entrer s'ils ne prêchent pas l'Évangile. Il y a bien sûr place pour parler aux témoins de Jéhovah. Aux mormons avec leurs chemises blanches et leurs jolies bicyclettes dans la rue. Mais c'est un vrai ministère, c'est quelque chose qui doit être réservé à ceux qui ont reçu un appel pour faire ce genre de choses. Ils sont entraînés à vous embobiner. Et donc, le danger est réel. Et quelqu'un disait, s'il y a sans attention, il n'y aura pas d'affection. C'est-à-dire, si l'ennemi ne tient pas votre oreille, il ne pourra pas attraper votre cœur. Et donc, toutes ces sectes, toutes ces fausses religions Gardez-vous de vouloir savoir exactement comment elles rendent un culte à leur Dieu. Parce que peut-être vous trouverez qu'en fait, ces mamans sont très sympathiques. Ils ont une vie de famille formidable. Ce sont des travailleurs remarquables dans le monde du travail. Ils sont aussi très généreux de leur dîme. Très bien. Mais ils sont dans l'erreur. Et on peut se dire, s'ils sont si gentils, c'est que ça doit être vrai. La Bible nous dit, gardez-vous de vous laisser prendre au piège. Votre réponse, ça devrait être d'être aussi, au moins aussi gentil, au moins aussi travailleur, au moins aussi honnête que ces gens, en suivant Christ. Amen. Verset 31, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles faisaient pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. On parle souvent dans le monde du Dieu sanguinaire de l'Ancien Testament. Mais là, il faut voir que Dieu devait agir radicalement. Il y avait le culte du dieu Moloch. Ce qu'on faisait dans les statues, il y avait des statues de métal qu'on chauffait au rouge et on offrait des enfants nouveau-nés en sacrifice à ce dieu. Ce qui est odieux à Dieu doit nous être odieux. Amen. Nous devons haïr ce que Dieu est et aimer ce que Dieu aime. Peut-être que vous vous dites, oui, mais ça c'est il y a longtemps ça. Aujourd'hui, au nom d'un autre Dieu, le Dieu du confort, le dieu du confort matériel, mais aussi familial, personnel. On va pratiquer l'avortement. C'est une abomination pour Dieu. Ce qui est odieux à Dieu doit nous être odieux. Nous ne devons pas nécessairement nous attaquer aux personnes qui pratiquent l'avortement. Mais nous devons ne pas nous livrer nous-mêmes. Nous devons aimer ces personnes et leur expliquer qu'il y a une meilleure solution. Nous pouvons agir auprès des autorités, écrire, nous faire connaître. Pas comme des gens qui ont de la haine, mais comme des gens qui ont de l'amour et qui peuvent proposer des solutions. On est contre la peine de mort, mais on est pour l'avortement. Comprenne qui pourra. En fait, on peut proposer, lorsque quelqu'un se retrouve enceinte, une grossesse non désirée, que l'enfant soit adopté à la naissance, au lieu d'être tué. Il y a des tas de familles, de parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et l'Évangile apporte une solution. Ne tuez pas ces enfants, adoptez-les. Nous devons réagir sur la place publique, avec amour, en proposant des solutions d'amour. Comment est-ce qu'on se retrouve dans une secte? Comment est-ce que l'on suit une fausse religion? Est-ce que vous vous êtes jamais demandé la question? La secte du mandarin. Mandarin. Go, Niel. Il est mort, je crois, maintenant. Oui. Des avocats, des docteurs, des professeurs d'université. La même chose, des gens respectables. Pas nécessairement des illuminés. Le chapitre 13 va nous montrer comment on se retrouve dans une secte ou dans une fausse religion. Il peut d'abord y avoir une sollicitation à l'idolâtrie qui vient d'un faux prophète. Versets 2 à 6. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, c'est à lui que vous rendrez un culte, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a libéré de la maison de la servitude. Il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal au milieu de toi. Les faux prophètes. Notons bien que ce personnage, cette personne, ce prophète, ce visionnaire, ou comme il est dit dans d'autres traductions, ce rêveur de rêves, annonce des choses et la chose se réalise. Il y a accomplissement du signe ou du prodige. Une chose très importante pour nous chrétiens, c'est de réaliser que tout miracle ne vient pas de Dieu. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, nous sommes mis en garde contre les faux Christ, les faux prophètes. Dans Matthieu 24, Jésus disait, 23, « Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera, parlant de la fin des temps, de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. » Dans 2 Thessaloniciens, la même chose, chapitre 2, l'avènement de l'Antéchrist se produira, verset 9 de Thessaloniciens 2, 9, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec, verset 10, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que la tromperie peut être très puissante. Dans l'Apocalypse, on voit la bête qui séduit les habitants de la terre par des signes, l'Antéchrist par les signes qu'il est donné d'opérer devant la bête. Ce qui fait d'eux des faux prophètes, ce n'est pas que leur prophétie ne se réalise pas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de soi-disant, produire des miracles. Ce qui fait d'eux des faux prophètes, des fausses religions, des sectes, c'est qu'ils entraînent leurs auditeurs loin de Jésus. Il était dit, verset 3, ils font des prodiges et ils disent, rallions-nous à d'autres dieux. Rallions-nous des dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. C'est vrai que le christianisme, c'est vieux. Mais le Dalai Lama, on voit à la télévision qui a l'air si gentil. Le bouddhisme qui embrassait même Richard Gere, ça a l'air si bien. Les gens ont l'air si paisibles, si souriants. L'attrait de la nouveauté. Tout ce qui est vrai n'est pas est ancien. Si quelque chose est nouveau, c'est probablement pas vrai. En matière de foi, de notre relation avec Dieu. Mais nous sommes un peu comme la génération que fustigeait Jésus. On aime bien aller là où il y a des miracles. Il paraît qu'il y en a. Leurs dents, leur plombage se change en or. Où il tombe de la poussière d'or sur l'église. Ça doit être vraiment puissant. Jésus disait, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, puis il les laissa et s'en alla. Encore une fois, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut faire des miracles. Mais il ne fait jamais des choses qui sont en désaccord avec ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Et donc, un des premiers dangers, c'est de voir une personne charismatique qui accomplit des prodiges. Et de dire, s'il y a des miracles, ça doit être Dieu. Non, s'il vous éloigne de Jésus-Christ, s'il est en contradiction avec la parole révélée de Dieu, à l'époque, il devait être puni de mort. Aujourd'hui, il ne s'agit bien sûr pas d'une mort physique. Et vous ne devez plus le laisser vous influencer. Vous devez le laisser dans son coin. Ça, c'est une des premières façons dont on tombe dans un culte, c'est lorsqu'on est émerveillé par des prodiges. La deuxième façon, elle est souvent plus difficile à résister, il est souvent plus difficile d'y résister. Parce qu'il s'agit d'une sollicitation de vos proches. Que dit Moïse, verset 7, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, toujours la nouveauté, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent de près ou de loin d'un bout à l'autre de la terre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, Tu n'useras pas de ménagement et tu ne le couvriras pas, mais tu devras le tuer, ta main se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra parce qu'il a cherché à te pousser loin de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Ainsi tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte, et l'on ne commettra plus une action aussi mauvaise au milieu de toi. Un proche, un parent? Qui vous dit, j'ai commencé à parler avec des gens qui sont venus à la porte. Ils m'ont laissé ce beau livre avec des belles images sur le bonheur après la mort. Alors ne la tuez pas. Et vous ne devez pas non plus vous laisser influencer par ceux qui sont influencés par les cultes et les fausses religions. Il peut y avoir un danger des affections familiales naturelles avec les proches amis. Paul déplorait l'absence de ces relations d'affection au sein de la famille dans Romains. Ce sont de bonnes choses. Jusqu'à ce qu'elles se mettent entre nous et le vrai Dieu. Jésus a même dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Alors il est question d'une haine ici. Est-ce que Jésus nous dit de haïr notre père, notre femme, notre mère, nos enfants, nos frères, nos sœurs? Donc Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il a dit d'abord, aimez Dieu, aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme. Un point tel que notre amour, le plus grand amour humain que les plus grands amours humains que nous puissions avoir, soit comme de la haine comparé à l'amour qu'on a pour Dieu. Tu devras le tuer. Il s'agit donc pour nous de tuer la relation, de couper court à toute conversation. En ce moment, on parle beaucoup de la peine de mort. Et l'argument, c'est que la peine de mort ne sert à rien, qu'elle est brutale. De sang-froid, tuer quelqu'un, c'est horrible. On dit en plus qu'elle ne sert pas d'exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu nous dit que la peine de mort est instituée par Dieu. Et là, il est dit qu'en fait, elle sert d'exemple. Verset 11, tu lapideras cette personne, il mourra parce qu'il a cherché à te pousser loin d'Éternel. Et ainsi, verset 12, tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte et l'on ne commettra plus une action aussi mauvaise au milieu de toi. Ma raison humaine, ma sensibilité humaine me fait dire non à la peine de mort. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui a versé le sang de l'homme, par l'homme, son sang doit être versé. Que le gouvernement, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament, Romains 13 nous explique que l'épée a été donnée au gouvernement pour faire régner l'ordre. C'est pas mon opinion contre celle de M. Badinter. C'est plutôt celle de M. Badinter contre Dieu. La peine capitale, malgré tout ce qu'on en dit, doit dissuader puisque Dieu nous le montre ici. Toutes les statistiques qu'on peut vous fournir ne sont même pas logiques. Comment savoir si quelque chose n'a pas eu lieu parce qu'il y avait la peur de la peine de mort? C'est un peu comme quelqu'un qui disait on ne peut pas savoir s'il y a du crime parfait parce que le crime parfait, par définition, on ne sait pas que c'est un crime. Il est dit, par contre, une chose remarquable. Si quelqu'un t'entraîne vers d'autres dieux, c'est verset 15, c'est dans le passage suivant, mais l'idée c'est aussi de procéder, verset 15, tu procéderas à une enquête, à des sondages, à des interrogatoires sérieux, la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette horreur a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors si c'est le cas, tu procéderas à la peine de mort. Et c'est vrai que souvent on s'attaque à la peine de mort, alors qu'en fait on devrait s'attaquer aux conditions d'application. Est-ce qu'on a fait toutes les enquêtes sérieusement, impartialement, pour s'assurer que le crime avait vraiment eu lieu? Ou est-ce qu'on a dit parce que la personne est de couleur noire, il y a des grandes chances qu'il ait vraiment fait? Ou une autre couleur de peau? Non, la peine de capitale est prescrite par la Bible. Mais elle doit s'accompagner de certaines précautions. Il est dit aussi que ça doit être donc une exécution publique, pas en cachette à la sauvette, pour que Israël le sache. Il ne s'agit pas de faire tomber la guillotine à 5 heures du matin avec 6 personnes. Je n'ai pas vérifié complètement mes sources, mais on dit qu'à Singapour, si vous êtes pris avec de la drogue, vous êtes condamné à mort. J'ai envoyé un email à l'INSANG pour lui demander de me dire si c'est exactement comment ça se passe. Et Singapour est une grande plaque tournante du commerce international en Asie. Il n'y a pas de problème de drogue à Singapour. On pourrait dire qu'il n'y a pas de problème, donc la peine de mort ne sert à rien. Ou est-ce que peut-être parce qu'il y a la peine de mort, il n'y a pas de trafic? Encore une fois, je comprends la position des non-chrétiens, même de certains chrétiens. Mais est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Ou est-ce qu'on fait confiance à l'homme? Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai entendu un reportage qui disait qu'en France, près de 30% des condamnations à de la prison ferme ne sont pas exécutées. Ça peut être simplement parce qu'ils ont changé d'adresse, ou parce que le juge d'application des peines décide que toutes les peines de moins de 2 mois, on les annule. C'est vrai qu'il y a le problème de la place dans les prisons. Mais est-ce qu'on peut s'étonner si les gens savent que même s'ils sont condamnés à 1 ou 2 mois de prison, ils vont rien avoir? Est-ce que s'il y avait un respect plus sérieux de la loi, est-ce que le crime ne baisserait pas? Ça, c'était une parenthèse sur le fait qu'on peut être entraîné vers les fausses religions par des membres proches de nous, des membres de notre famille, des gens proches de nous. La dernière façon dont il est question ici, c'est la sollicitation par le nombre. Verset 13, « Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a donnée pour y habiter, des vauriens sont sortis de chez toi et ont excité les habitants de leur ville en disant, « Allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Tu procéderas à une enquête, à des sondages, à des interrogatoires sérieux. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette horreur a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la voueras à l'interdit avec tout ce qui s'y trouvera, y compris le bétail au tranchant de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un tertre inhabité et ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera voué à l'interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il t'accorde sa compassion et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant tous ces commandements que je te donne aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. » Et là, il est question de toute une ville qui se serait tournée vers un culte, vers d'autres dieux. Là aussi, la prescription, c'est qu'il faut ne pas faire de compromis et complètement détruire cette ville. Une question d'une ville. Et c'est vrai que l'idée, c'est que c'est le nombre. La ville, c'est pas une seule personne, c'est pas juste un petit groupe, c'est tout le monde le fait. Parce que tout le monde le fait, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a des sectes qui ont des milliers, des millions de membres. Ce n'est pas pour autant que leur doctrine est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et tout ce qui vous en détourne, tout ce qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est quelque chose que Dieu a en horreur. Vous allez vers d'autres dieux. Et on peut se demander, mais comment est-ce que Dieu peut être aussi dur? S'il est le seul Dieu vivant, vrai Dieu vivant, comment est-ce qu'il pourrait tolérer les faux dieux, les faux cultes, les sectes? Le tolérer, ça voudrait dire qu'il se renierait lui-même, c'est comme un blasphème. Et si Dieu nous demande d'être aussi sévère avec tout ce qui n'est pas la vérité, à l'époque, il demandait la mort. Aujourd'hui, il nous demande de nous écarter complètement et de ne pas céder de place dans nos cœurs, de ne pas prêter l'oreille. Parce que dans ces fausses religions, dans ces sectes, ce n'est pas seulement des gens qui sont égarés, ce sont des puissances démoniaques qui sont à l'œuvre. J'ai une sœur qui pense avoir été guérie du cancer par un guérisseur. Elle n'est pas en très bonne santé de nouveau. Au début, je pensais qu'en fait, elle pensait qu'elle avait été guérie. Mais en y songeant, je pense qu'elle a vraiment été guérie. Au moins pendant un temps. Parce que je vois l'effet dans sa vie. Elle n'a pas d'oreille pour le Seigneur. Si elle n'avait pas été guérie, peut-être qu'elle serait prête à écouter le Seigneur. Entendre parler de l'Évangile. Et dans sa vie, elle a vu ce qu'elle croit être un miracle. Et elle a donné son affection à cette secte. Donc ne croyez pas qu'il n'y ait pas de pouvoir dans les sectes, dans les fausses religions. Ma question c'est d'où vient ce pouvoir? La survie d'Israël, pourquoi est-ce que Dieu s'y attachait tant? Parce qu'Israël était le véhicule par lequel il allait venir parmi nous. Et on pense que de tout temps, l'ennemi s'est attaqué à Israël pour empêcher que le Messie n'arrive jusqu'à nous. Et Dieu merci, Jésus est venu ici, là. Il nous a montré comment vivre, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour les péchés des chrétiens, pour les péchés des témoins de Jéhovah, ceux des Mormons, ceux de toutes les sectes. Encore faut-il que ces gens entendre parler de Christ. Rapidement, les caractéristiques des sectes. Ils distancent le Père. Dieu semble très loin, impossible à atteindre. Ils diminuent le Fils. Le Fils n'est pas Dieu. Jésus n'est que le frère de Lucifer ou l'archange Michel. Il dédaigne l'Esprit Saint. Il demande votre entière allégeance. Demande votre soumission. Et il divise les hommes en disant, si vous n'êtes pas dans notre petit groupe, vous ne pouvez pas connaître le vrai Dieu. Sujet pas toujours réjouissant, mais nous sommes dans un combat. Dieu merci que nous sommes appelés à prendre des armes spirituelles et non pas des armes militaires. Mais la première violence, elle doit s'exercer dans nos propres vies. Pas de compromis avec l'ennemi, avec le péché. Prions. Seigneur, merci pour ton l'amour pour nous, pour les hommes. Merci pour ton désir de nous enseigner. Merci pour tes commandements. Parce que tu nous les donnes pour notre bonheur, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons de nous fortifier dans notre foi. Notre foi qui semble être en recul ou même persécutée, du moins par les paroles. Nous demandons de nous aider à ne pas tendre l'oreille aux mensonges. Seigneur, nous reconnaissons aussi que c'est toi seulement qui peux nous donner le discernement nécessaire. Merci de te donner ce véritable amour de la vérité. Parce que tu nous promets que si nous te cherchons de tout notre cœur, alors nous pouvons être sûrs que nous allons te trouver. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider aussi à faire briller l'éclat de l'Évangile. Pour que nous puissions témoigner auprès des gens.